Alors, ce matin, on commence une nouvelle série. On espère que vous avez été vraiment bénis à travers la série sur le livre des actes, sur le livre des juges, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai un flashback. Dans le livre des juges, on a terminé le livre en étant dans le désordre, n'est-ce pas? Je pense que la fin du livre des juges a laissé peu de personnes qui ont été attentives, qui étaient là, indifférentes. C'était troublant de voir ce désordre-là. Et donc, on passe d'un livre où c'est le désordre, le chaos total en raison du péché d'Israël, de son égarement, et on se tourne vers le décalogue, les 10 commandements, l'ordre même, d'accord? Et déjà, je peux vous dire que personnellement, je suis béni par la préparation pour cette série. Dieu brasse mon cœur, Dieu me confronte à moi-même, Dieu m'inspire. Vraiment, je suis rempli de joie de découvrir comme ça la loi de Dieu et le contexte de la loi de Dieu. Alors, je suis vraiment excité qu'on puisse aller ensemble dans ces 10 prochaines prédications, ces 10 prochains exposés bibliques vont être dans ce passage-là, sinon pour la pause du dimanche de Pâques, d'accord? Alors, je vous encourage à prendre le temps pour aller lire Genèse à partir de Genèse 37, puis tout le livre d'Exode, vous avez 10 semaines pour lire ça. Un chapitre par jour, deux chapitres par jour, vous allez passer à travers ça. On va écouter ensemble la parole de Dieu. Joël va nous lire ce matin simplement le contexte immédiat des 10 commandements. Écoutons la parole de Dieu.
Alors, on va lire Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son... Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Merci. Les 10 commandements. La loi. Qui aime, a priori, là, qui aime les lois? Ouais, il y en a qui disent oui. Ah, peut-être un policier, oui. Hein? C'est vrai, peut-être un policier. Mais quand même, qui aime les limites de vitesse? T'sais, vous aimez ça. Quand vous voyez ça, c'est comme, ça vous fait du bien. Bon, peut-être quand tu viens d'avoir des enfants, tu es dans le quartier, tes enfants jouent dans la rue, tu aimes les pancartes de limite de vitesse. Vous arrivez à une place, puis vous voulez rentrer, puis il y a une pancarte d'interdiction. Vous aimez ça? Vous arrivez à quelque part, puis vous voulez faire quelque chose, puis une personne qui est en autorité vous dit: « Ah, non, on ne peut pas faire ça. » Lorsque tu es jeune, quand tu es jeune, tu commences à voir le jour où tu vas quitter la maison de tes parents, c'est quoi la pensée qui vient? C'est un jour, je vais avoir mon appartement à moi, je vais faire ce que je veux, je vais me coucher à l'heure que je veux, je vais manger ce que je veux. Hey, dans ma famille, chez nous, Esther, Ça prend 3 légumes par assiette, vous comprenez? Puis papa, il a décidé qu'il perdait 20 livres, tu sais. Vous ne voulez pas être des ados dans cette maison-là, je vous le garantis, ça mange trop bien. Un jour, il n'y aura plus de loi, il n'y aura plus de cadre, je vais être libre, je vais pouvoir faire ce que je veux. Je pense que naturellement, on trouve que la loi est quelque chose qui nous contraint, qui nous limite. Mais en même temps, on comprend que c'est nécessaire, la loi. Imaginez un instant qu'on prendrait les 10 commandements et puis qu'on ferait juste les tourner. Au lieu d'en faire des interdictions, on les formulerait même en directives ou en liberté. Alors, au lieu de dire « tu n'auras pas d'autre Dieu », on dirait « tu auras plein de dieux ». Ou encore « tu tueras », « tu voleras », c'est la liberté. « Tu convoiteras tout ce qui bouge ». Ça, c'est le marketing. Ou bien, sans vouloir s'imposer, il n'y aurait même pas d'ordre. D'accord? Ce serait vraiment comme tu le sens. Fait qu'on reformule ça avec un petit peu plus de liberté encore. Si tu étais totalement libre. Écoute, tu auras les dieux que tu veux. Tu respecteras tes parents si ça te tente. Ça ressemble quand même à notre époque pas mal. Tu tromperas ta femme si ça te chante. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est feel free, mon homme. Tu tueras si tu veux. Tu n'es pas obligé, remarque. On ne voudrait pas te contraindre. Sans toi libre, on ne voudrait pas t'étouffer, brimer ta liberté. Puis voler, écoute, si ça te fait du bien, si tu t'épanouis plus comme ça. Je pense que je fais mon point. On a besoin de la loi. Et la loi, lorsqu'elle est juste et bonne, lorsqu'elle est remplie de sagesse, c'est une bonne chose. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi dans notre cœur, on réagit si facilement aux lois? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à réagir contre les lois? Et je pense que dans les 10 prochains messages qu'on va voir ensemble, on va apprendre énormément sur la bonté, la sagesse de Dieu dans sa loi et sur nos cœurs. Parce que la loi est un pédagogue qui nous aide à se connaître nous-mêmes énormément. Et on va apprendre à aimer la loi de Dieu, à découvrir son rôle dans la vie des chrétiens en général, dans notre vie à nous-mêmes. On a intitulé cette série-là « Les 10 commandements ou la liberté parfaite par Jésus-Christ », d'accord? Et donc, on va découvrir la relation entre la loi et la personne de Jésus-Christ. Simplement pour se mettre dans le contexte historique des 10 commandements, c'est super important pour comprendre ce passage-là. Alors, ce matin, je vais passer pas mal de temps à introduire le décalogue, les 10 commandements. On va voir brièvement le premier commandement, puis on va avancer comme ça à travers la série avec les différents commandements. Contexte historique, on retrouve le peuple d'Israël quelques temps après qu'il ait été libéré de l'esclavage en Égypte. Alors, je sais, c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire d'Israël. Comme je l'ai mentionné, on va passer 10-11 semaines là-dedans. Bon moment pour aller lire Genèse 37, terminer Genèse à partir de l'histoire de Joseph. Lire Exode, si vous n'êtes pas familier, c'est un bon moment pour le faire, d'accord? Vous allez saisir davantage de contexte, vous allez retenir beaucoup plus de cette série-là. Le contexte, Israël vient de sortir d'Égypte. Ils étaient esclaves là-bas. Ils n'étaient pas un peuple officiellement, sinon des descendants de Jacob, mais ils n'avaient pas de droit. Et donc, ils servaient en Égypte à faire les tâches que finalement les Égyptiens ne voulaient pas faire. D'accord? N'importe quoi qu'ils ne voulaient pas faire, on donne ça aux descendants de Jacob, on donne ça au peuple d'Israël, ils vont s'occuper avec ça. Ils étaient là pour ça. Maintenant, ce n'était pas un peuple qui était différent des autres peuples. Ce n'était pas un peuple qui était comme « wow, extraordinaire », qui marchait selon Dieu d'une manière incroyable au milieu d'un peuple païen. Ils vivaient là. Simplement, Dieu avait fait une promesse à leur ancêtre Abraham qu'il viendrait faire d'eux un grand peuple et Dieu honorait sa promesse. Et donc, lorsqu'on retrouve Israël à ce moment-là, au moment du décalogue, Dieu est intervenu. Dieu les a libérés de manière extraordinaire. Il a envoyé Moïse en Égypte. Dieu s'est manifesté au peuple égyptien. Il a même été très patient avec Pharaon en lui donnant des avertissements de plus en plus sévères. De manière surnaturelle, il est intervenu pour libérer son peuple de l'esclavage. Puis il les a conduits au désert, en route pour la terre promise, mais Dieu les a conduits à l'écart. Et c'est vraiment ça l'idée. Il les a conduits à un endroit où il allait pouvoir parler à leur cœur. Si vous êtes avec moi dans le livre d'Exode, dans vos Bibles, simplement en tournant. Regardez avec moi Exode 19, versets 3 et 4. Je ne pense pas qu'on va les afficher à l'avant. Moïse monta vers Dieu au moment où il va sur le mont Sinaï. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Et Dieu est en train de résumer l'intervention qu'il a faite en Égypte pour les libérer de manière incroyable et surnaturelle et les conduire à l'écart, les conduire vers lui, là où il allait pouvoir s'adresser, parler directement à leur cœur. Et c'est au désert que Dieu va se manifester au peuple d'Israël de manière incroyable sur le mont Sinaï. Dieu va se manifester comme il ne l'a jamais fait depuis dans l'histoire de l'humanité, à travers des phénomènes qu'on pourrait dire naturels, mais qui de toute évidence étaient surnaturels à ce moment-là. Le peuple d'Israël en avait vu d'autres, d'accord? C'était des esclaves en Égypte, c'était des gens qui se faisaient battre, fouetter, qui étaient durement malmenés. Mais lorsqu'ils sont au pied de cette montagne, que Moïse monte à la rencontre de l'Éternel et que Dieu se manifeste à travers les éclairs, le tonnerre, à travers des flammes sur la montagne, le peuple tremble et dit à Moïse, « Arrête! Dis à Dieu d'arrêter, que Dieu te parle à toi et que toi, tu viens nous voir, d'accord? » Alors, souvent, lorsqu'on pense à ce passage-là, moi-même, j'étais en train de le lire, mon premier réflexe, c'est de dire, « Wow, j'aurais aimé ça être là. » La réalité, c'est que si j'avais été là, j'aurais dit, « Arrête! » Et si certains d'entre vous, vous avez été au milieu de catastrophes naturelles, de séismes importants, vous savez ce que c'est de sentir que tu es absolument juste un microbe devant ce qui est en train de se passer et t'en appelles seulement à la grâce de Dieu parce que tu ne donnes pas cher de ta vie, d'accord? Et c'était le sentiment d'Israël lorsqu'ils étaient là au pied de la montagne devant la manifestation extraordinaire de ce Dieu-là. Et donc, Dieu va leur donner à ce moment-là, Dieu va leur donner à ce moment-là 10 commandements qu'il va inscrire sur les tables de la loi. Ces 10 commandements-là sont un résumé de la loi. C'est un résumé de la loi. Et si on dit résumé, on est en train de dire que ça ne contient pas tout. En fait, c'est même un résumé parmi plusieurs résumés. On trouve ailleurs dans la Bible d'autres résumés de la loi. On va en regarder quelques-uns très rapidement. Je vais juste vous les lire, d'accord? Par exemple, dans le livre de l'Ecclésiaste, on a un résumé de la loi. Voici ce qui est dit. « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. » On pourrait résumer ça comme ça. Ça serait un résumé encore plus limité. Dans Michée 6:8, le livre du prophète Michée, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Qu'est-ce que Dieu attend? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Voici tout ce qui est attendu de la part de l'homme. Simplement ces trois choses-là. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, par exemple, le sermon sur la montagne, Matthieu 5:7, dans Matthieu 5:7, on a l'exposé le plus complet fait par le Seigneur Jésus où il présente la loi pour le peuple de la Nouvelle Alliance. Et c'est ça qu'on trouve là, d'accord, dans le sermon sur la montagne. Dans Matthieu 7, Jésus a déclaré, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Résumé de la loi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Résumé de la loi. Tu as résumé toute la loi et les prophètes dans ce simple commandement-là, principe de sagesse-là. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Et voilà, tu as résumé toute la loi. Ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu 22, 37 à 40, répondant à une question, il résume la loi dans deux commandements. Deux commandements. C'est quoi? Aime Dieu, aime ton prochain. Les deux étant directement pris dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6, 5 et dans Lévitique 19, 10. Alors, voyez-vous, ces 10 commandements qu'on trouve, qui sont donnés, qui à quelque part résument, symbolisent toute la loi, ce n'est pas toute la loi, c'est un résumé de la loi. Et ailleurs, on trouve d'autres résumés. Donc, une question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont si importants que ça? On a pris une image tirée du film avec Charlton Heston, ceux qui ont vu ça, les 10 commandements. Qui est aussi vieux que moi puis qui a vu à la télé les 10 commandements? Juste pour prendre la mesure. OK, qui ne l'a jamais vu? bande d'ignores. Inculte. Netflix, n'importe quoi, comment? Non, c'est pas en VHS, c'est partout. C'est juste en VHS. Espèce d'inculte. Dans ce temps-là, ils savaient faire un film qui respecte un petit peu la Bible. Vous irez voir Noé pour faire la comparaison pour le fun. Quand même. Dans le bon vieux temps. Hein? C'est quoi l'importance du décalogue? Pourquoi est-ce que les 10 commandements sont tellement importants? Très brièvement, un moment historique, un moment fondateur du peuple de Dieu, la référence morale de toute la Bible, un contexte de grâce. C'est un moment historique qui est en train de se produire là. Jamais dans l'histoire de l'humanité, Dieu ne s'est manifesté de cette manière-là. Il va y avoir d'autres moments historiques, d'accord? Mais c'est un moment fondateur pour le peuple de Dieu. Plus loin dans le livre du Deutéronome, Moïse va faire référence à ce jour-là, au moment où Dieu a donné la loi, et il va en parler comme le jour de l'assemblée. C'est le jour où le peuple de Dieu s'est assemblé pour écouter Dieu. C'est un moment fondateur. C'est probablement le seul endroit, le seul moment dans l'histoire de l'humanité où Dieu a écrit de sa main. D'accord? Je veux dire, toutes les Écritures sont inspirées de Dieu, mais Dieu travaille à travers des hommes pour nous donner cela. Mais c'est probablement le seul moment où Dieu nous a donné une loi qui nous a été transmise, écrite de sa main. On s'entend de sa main, d'accord? Mais c'est lui qui l'a écrit. Comment il a fait ça? Je ne sais pas. Mais donc c'est un moment fondateur où Dieu prend un peuple qui n'était pas un peuple, il les conduit au désert pour en faire un peuple, et lui dit, maintenant que vous êtes ici, que vous êtes mis à part pour moi, voici, je vais vous résumer ce que j'attends de vous. Je vais vous instruire. Et donc, les 10 commandements, plus que le reste de la loi, plus que le reste du livre d'Exode, plus que Lévitique, les 10 commandements deviennent une espèce de référence morale pour tout le reste de la Bible. D'accord? On va, ailleurs dans les Écritures, on va parler des 10 commandements comme des 10 paroles de Dieu. Ils sont présentés comme ça, les 10 paroles de Dieu. Lorsque Jésus va faire référence à la loi, spécialement lorsqu'on va dans le sermon sur la montagne, on voit très bien qu'il revisite ça en nous disant « Voici le cœur de mon Père lorsqu'il vous a donné cette loi ». Lorsque Paul va faire référence à la loi, il va se tourner vers ça. Lorsque Jacques va le faire, il va se tourner vers ça. Et donc, dans notre compréhension judéo-chrétienne de ce que Dieu attend des hommes, c'est un texte fondateur. C'était un texte fondateur pour Israël, ce l'est pour tout le christianisme aussi. Et donc, ce résumé-là de la loi, qui n'est pas le seul dans la Bible, est important parce qu'il représente, il symbolise qu'est-ce que Dieu attend des hommes pour que les hommes marchent dans les voies de Dieu. Vos enfants devraient connaître les 10 commandements. Vous devriez connaître les 10 commandements par cœur. Dans le bon vieux temps encore, dans le temps où même les protestants publiaient des catéchismes pour apprendre, c'était les cours bibliques de l'époque, on apprenait les 10 commandements par cœur. Et dans le catéchisme d'Edelberg, on va même apprendre quelle est l'implication de chacun des commandements. Comment est-ce qu'on les met en pratique dans le petit catéchisme de Martin Luther, dans le grand catéchisme du réformateur Martin Luther. On voit ces commandements puis on voit leurs implications. Et donc, c'est la référence pour dire voici ce que Dieu définit comme le bien et le mal et ce que Dieu attend des hommes. Et on va voir à travers les prochaines semaines combien on a à apprendre. Et combien cette loi-là demeure une instruction extrêmement précieuse pour nous, pour nos âmes. Mais enfin, dernièrement, pourquoi est-ce que le décalogue est important? Pourquoi est-ce que les 10 commandements sont importants? Ils sont importants parce qu'ils sont donnés dans un contexte de grâce. Ce texte-là est donné dans un contexte de grâce. Et bien souvent, la loi est mal comprise parce qu'on la sort de son contexte complètement. J'aime l'illustration qu'on a ici, parce que moi, je ne vois pas de grâce là-dedans. J'aime ça, parce que ça nous dit souvent notre vision de la loi. On voit la loi comme quelque chose qui est dur, quelque chose qui est lourd, quelque chose qui peut nous faire du mal. On a dit plutôt que la loi était bonne et sage et qu'elle est nécessaire au bon fonctionnement de la société. Autrement, ce serait le chaos. Mais je pense que beaucoup de gens, même ici dans cette salle, pensent que la loi est un mal nécessaire. Plusieurs d'entre vous, c'est comme ça que vous voyez la loi. La loi, c'est bon, mais c'est un mal nécessaire. Certains d'entre vous, plusieurs dans la société, vont même plus loin que ça. Et ils vont voir la loi comme un instrument créé par ceux qui sont en autorité, ceux qui sont en pouvoir, pour dominer et contrôler les autres. Et c'est un fait. C'est un fait dans l'histoire de l'humanité, c'est un fait encore à notre époque aujourd'hui, qu'il y a des lois qui sont créées simplement pour pouvoir contrôler, pour pouvoir écraser, pour pouvoir dominer, n'est-ce pas? Mais certains ont une vision du principe même de la loi. L'idée même qu'on dicte quelque chose, comme quelque chose de malsain qui, de toute manière, va servir d'une manière ou d'une autre, à contrôler, à dominer. Quel est ton rapport à la loi? Est-ce que pour toi, tu fais une distinction entre la loi qui est juste, saine et bonne, et la loi qui est malsaine parce qu'elle a été dictée, conçue par des gens qui voulaient écraser? Ou est-ce que fondamentalement, en toi, tu te dis, la loi, c'est toujours quelque chose de malsain. Moi, je suis contre ça, la loi. Je ne suis pas d'accord avec ça, la loi. Dans le contexte des 10 commandements, le contexte est super important. Parce que ça vient nous éclairer sur la personne qui donne cette loi-là, sur le contexte où cette loi est donnée. Et ça vient nous faire la démonstration, hors de tout doute, que cette loi-là a été donnée dans un contexte de grâce par quelqu'un qui était motivé, poussé par l'amour et qui cherche notre bien, qui cherche le bien de ceux qui vont adopter cette loi-là. Et donc, le contexte est super important pour comprendre qu'il s'agit d'une loi qui est donnée avec grâce, avec amour. Exode 20, versets 1 et 2. Il y a comme un préambule à la loi. Et avant de donner les 10 commandements, Dieu veut rappeler à Israël quelque chose. Alors, voici ce qu'on lit. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » La loi est donnée dans un contexte de grâce, parce que Dieu va leur rappeler qu'il les a sortis de l'esclavage pour les conduire dans la liberté. Dieu va leur rappeler qu'ils ont été sauvés par grâce et non par la loi, on va voir ça ensemble, et qu'ils ont été libérés pour suivre la loi qui libère de l'esclavage. Très brièvement, juste en guise d'introduction ce matin. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu a choisi un peuple qui était esclave, qui était dominé, qui n'était pas vraiment un peuple parce qu'il n'avait aucune liberté. Il était une espèce d'entité nationale écrasée, qui servait, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste à faire les basses besognes des Égyptiens. Et ce peuple-là ne se démarquait pas des Égyptiens. C'est super important. On peut avoir une vision comme d'Israël, tu sais, qui est une nation à part. Jusqu'à ce qu'Israël reçoive la loi de Dieu, Israël est un peuple à part dans une promesse. Parce que Dieu les a appelés, parce que Dieu les a choisis, parce que Dieu a promis à travers Abraham de les bénir, ils sont un peuple à part. Mais pour le reste, là, ce matin, moi, j'étais en train de lire l'histoire de Jacob. Vous regardez ce gars-là vivre, puis je ne vois pas beaucoup en quoi c'est un gars à part. C'est un homme fourbe, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Et lorsqu'Israël vit en Égypte, Il n'y a rien qui nous indique que ce peuple-là est fondamentalement différent des autres peuples. En fait, lorsque Dieu va les conduire hors d'Égypte, lorsqu'il va les conduire au désert, à un certain moment donné, il va leur dire, « OK, maintenant, faites le ménage. Sortez les dieux que vous avez adoptés de vos maisons, de vos tentes. Sortez-les de votre foyer, rejetez-les. » Parce qu'Israël avait adopté la culture où ils vivaient, comme ils vont le faire encore plus tard, comme on l'a vu ensemble, dans les dernières semaines à travers le livre des juges. Et donc, Israël n'est pas vraiment un peuple à part, il est en promesse, d'accord? Lorsque Dieu est intervenu pour aller les sauver, il n'a pas été interpellé, gouvernant la terre, puis il les a regardés, puis il a dit « Oh my! » Il n'a peut-être pas dit « Oh my God », il a dit « Oh my! » Quel peuple extraordinaire! Écoute, je veux dire, il pourrait être comme le reste des hommes, mais vraiment, il se démarque. Pas en tout. Du tout. Du tout. Belle citation de Tim Keller qui résume un peu ça. Voici ce qu'il dit. « Est-ce que Dieu est venu auprès des enfants d'Israël en Égypte et leur a dit, « Voici la loi, obéissez-y et je vais vous sauver, vous délivrer. Si vous obéissez suffisamment, « Je vais vous sauver. » Voyez-vous, le peuple d'Israël ressemblait aux Égyptiens. Ils ne connaissaient pas la loi de Dieu. Et Dieu est intervenu pour les sauver par pure grâce. Il ne l'a pas fait avec des conditions. Il aurait pu le faire. Si Dieu donnait sa loi dans un contexte de loi pure où ce n'est pas la grâce, il aurait pu se présenter à Israël puis dire, « Bon, regardez, vous êtes à peu près comme tout le monde. J'ai fait une promesse à votre ancêtre Abraham. Alors Moïse va arriver avec les tables de la loi. Il va vous les dicter. On se donne un 30 ans. Je vous regarde aller. Si vous êtes sacoche, je m'en viens, je vous libère. » Est-ce que c'est ça que Dieu a fait? Dieu les a pris. Il a dit, « Vous êtes pareil comme les autres, mais j'ai fait une promesse. Je respecte ma parole. Est-ce que vous êtes plus beau que les autres, plus fin, plus intelligent, plus sain, plus droit, plus juste? Pas en tout. En fait, l'histoire va montrer que vous êtes probablement pire que tout le monde. Parce que lorsque vous allez avoir ma loi, vous allez la rejeter, vous allez retourner vers votre vomi, vers vos péchés, vers vos idoles. Donc, vous êtes pas meilleur que les autres. Vous êtes sale parce que vous êtes pécheur. Et je vais vous sauver. Et c'est ça qui est en train de leur rappeler dans le préambule au début. Il est en train de leur rappeler simplement, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » Alors Dieu est intervenu par pure grâce. Il n'aura pas donné la loi pour les qualifier. Il les a sauvés, il les a conduits au désert. Et c'est important de comprendre ce contexte-là. Parce qu'on peut être tenté de croire que c'est là que ça se garde. Ah, Dieu les a sauvés, mais dans le fond, il s'en venait leur mettre un choker, un collier autour du cou. Dans le fond, il voulait dresser un petit papy. Hein? Il était libre, puis il vient de le mettre à sa main. Non. Dieu les a sortis de la servitude de l'esclavage pour les conduire dans la liberté. Et c'est ça le contexte. Et l'argument que Dieu fait ici, c'est, écoutez sérieusement, si je voulais juste avoir des gens qui sont sur la coche, j'aurais peut-être cherché ailleurs, les amis. Mais je suis allé vous libérer alors que vous étiez des esclaves, que vous n'étiez pas un peuple. Et je vous ai conduit ici. Le contexte où cette loi est donnée est un contexte de grâce. Et déjà, c'est en train de pointer vers le Nouveau Testament. Déjà, c'est en train de pointer vers la personne de Jésus-Christ, d'accord? Alors, une simple lecture qui nous amène à voir les 10 commandements et dire, il n'y a pas la grâce là, c'est mal comprendre l'histoire d'Israël, c'est mal comprendre l'histoire du salut, c'est ne pas voir l'Évangile qui est déjà en train d'apparaître là. Et si votre rapport à vous, à la loi, est un rapport négatif, une relation négative où vous dites, c'est malsain cette affaire-là, moi je ne veux rien savoir de la loi, c'est pas bon cette affaire-là. C'est que vous n'avez pas saisi que l'Évangile est là déjà, annoncé à ce moment-là. On annonce déjà le salut qui s'en vient à ce moment-là dans l'histoire d'Israël. Alors, ils sont sauvés par grâce et non par la loi. La loi va leur être ensuite donnée. Dieu les conduit au désert, puis il leur dit, « Je vais vous enseigner. » Le terme qui est utilisé généralement dans le texte, c'est le mot « Torah » qui est là. Et c'est un terme qui représente l'instruction qu'un père va donner à son fils. Si vous êtes familier avec le livre des Proverbes, un livre de sagesse, c'est le livre que tu... Quand tu ne fais pas de culte en famille, là, tu commences avec les Proverbes avec tes enfants. Puis tu le lis avant, tu en choisis juste un, puis tu dis « OK, il est pratique, il est simple. » Puis tu dis « Regarde, justement, c'est un père qui a donné ça à ses enfants. » Et lorsque, dans le livre des Proverbes, on lit à plusieurs reprises « Écoute, mon fils, l'instruction, la loi que je place devant toi », c'est le mot « Torah » qui apparaît là à plusieurs reprises. Et donc, cette loi qui est donnée, c'est la loi d'un père qui est allé sauver, qui est allé racheter, d'un Dieu qui est allé racheter, qui les conduit au désert et qui dit « OK, maintenant on va s'asseoir ensemble. Je vais vous montrer comment vivre dans ma famille. » La terre m'appartient en entier, vous allez être mon peuple, au milieu de tous les peuples de la terre. Assis-toi maintenant, je vais t'instruire, je vais t'enseigner. Et donc, cette loi-là est donnée dans un contexte de grâce, parce que la grâce a précédé la loi, Dieu est allé les sauver avant de leur donner la loi, mais non seulement pour ça. On vient juste de terminer le livre des juges. Dieu les sauve de l'esclavage, mais la suite de l'histoire d'Israël va nous révéler, et la loi est là pour le révéler, que le véritable esclavage d'Israël, ce n'est pas l'esclavage physique. C'est l'esclavage à la loi du péché. C'est l'esclavage au péché qui règne dans leur cœur. Et donc, lorsque Dieu les prend là, ils sont comme le reste des peuples. Ils vivent comme le reste des peuples. Ils ont adopté des idoles du peuple au milieu duquel ils vivent. Ils ont plusieurs cultes comme ça. Et donc, leur style de vie est similaire aussi. Dieu les a sortis de l'esclavage pour leur donner une loi qui va les conduire dans la vraie liberté. Et cette loi-là est là pour nous libérer de nos idoles, nous libérer du péché, nous conduire dans la vraie liberté qui est marcher avec Dieu. Marcher selon la loi de Dieu, c'est entrer dans cette liberté. Et si vous avez encore des doutes là-dessus, retournez lire le livre des Juges. Vous allez voir ce qui va se passer avec Israël, qui va en fin de compte abandonner cette loi-là et qui va redevenir esclave. Qui va redevenir esclave, premièrement de son péché, deuxièmement des idoles qu'ils vont adopter, puis finalement des peuples qui vont les dominer. Et donc, le contexte de la loi, c'est un contexte de grâce, et ça, il faut le saisir. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, puis qu'on a parlé d'un Dieu extraordinaire qui est allé les chercher alors qu'ils étaient esclaves, on n'a pas à se surprendre que le premier commandement que Dieu va donner, c'est « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Lorsque Dieu est allé les chercher en Israël, Dieu les a délivrés de l'esclavage, d'un peuple où ils vivaient, où ils avaient adopté des cultes, de la place là-bas aussi. Et Dieu veut les conduire dans la liberté. Et Dieu est le seul qui est fondamentalement bon. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul qui va chercher leur bien. Et donc, le premier commandement que Dieu donne, c'est « Je ne t'ai pas sorti de ton bourbier copain. Je ne t'ai pas sorti de ta misère, mon ami, pour que tu ailles te remettre dans la misère. Je ne t'ai pas sorti de la servitude pour que tu ailles te replacer sous d'autres esclavages. » Le livre des juges commence plus tard, plusieurs années plus tard. On l'a vu ensemble. Israël va rejeter les commandements de Dieu qui étaient de ne pas faire alliance avec les peuples environnants, va traiter des alliances avec les peuples environnants. Et ce que Dieu va dire, il va dire, puisque tu as décidé de faire ça, je ne vais pas chasser les peuples. Je ne vais pas te donner la victoire sur tous ces peuples-là. Tu as décidé de traiter des alliances avec eux. Leurs dieux vont devenir un piège pour toi. Le premier commandement que Dieu donne, c'est le commandement par excellence qui nous conduit dans la liberté. Voici comment Martin Luther a dit ça dans son grand catéchisme. D'accord? J'aime vraiment comment est-ce qu'il résume ça. Martin Luther, réformateur, 16e siècle. Si vous ne connaissez pas son histoire, il faut que vous lisiez un petit peu sur lui. Il était vraiment un homme de Dieu que le Seigneur a utilisé puissamment pour nous faire découvrir le contexte de grâce des 10 commandements et nous faire redécouvrir l'Évangile. Avoir un Dieu c'est croire et se confier en ce Dieu. Il dit ensuite, « Dieu est l'être par excellence, l'auteur de tout don et de toute grâce à qui nous devons avoir recours dans tous nos besoins. » Lorsque Dieu commande à Israël avec ce premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », c'est parce que Dieu est la meilleure chose qu'il peut donner à Israël. Lorsqu'on entend Dieu parler comme ça, comme je le mentionnais dans le cours tout à l'heure, dans le cours biblique, on projette nos motivations à nous. On projette notre propre cœur, puis on se dit, est-ce que ce n'est pas un peu égoïste de la part de Dieu d'agir ainsi? Maintenant, je vous rappelle le contexte. Et je vous rappelle le livre des juges. Est-ce que vraiment ce serait un acte de pure bonté de la part de Dieu de dire, « Vas-y, adopte tous ces cultes-là. Adopte leur style de vie, ça va être bon pour toi. » Voyez-vous, ça revient à dire ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque je m'amusais à déformer les 10 commandements. Tu veux tuer? Man, c'est comme tu le feels aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, personne ne va te juger pour ça. Feel free. Ça, c'est l'esclavage. Ça, c'est l'esclavage. La loi du plus fort, vous me direz, c'est l'esclavage. Voici comment Martin Luther défend le fait que Dieu veut régner sur nos cœurs entièrement, comme seul roi, seul maître de nos cœurs. Et quand je dis ça, seul maître de nos cœurs, il y a des gens ici ce matin, ça vous fait, vous êtes mal à l'aise avec ça. Vous dites, mais... un maître sur mon cœur, s'il m'aimait, il me rendrait libre, il me laisserait aller simplement. Pourquoi est-ce que Dieu veut être le souverain absolu, le roi absolu sur ton cœur? Martin Luther dit, parce qu'il sait qu'il est le vrai bien et la vie éternelle et que les grâces qu'il accorde durent à toujours. Dieu est bon. Dieu est bon, il l'a démontré à Israël lorsqu'il a donné les 10 commandements. Il est allé les chercher alors qu'ils n'étaient pas un peuple. Et il leur donne cette loi en disant, « Je veux que vous soyez heureux. Je veux que vous marchiez avec moi. » Ailleurs, dans Deutéronome 6, il va reformuler ce premier commandement-là de la manière qu'on est habitué de l'entendre. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Voyez-vous ce que Dieu est en train de dire? Il dit, « Je veux que ton cœur n'ait pas deux allégeances. Je veux que tu choisisses dans ton cœur, dans ton âme, de prêter allégeance à un seul Dieu, le vrai Dieu, celui qui t'a sauvé. Et que ton allégeance soit sans partage. » Et dans ce sens-là, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux comme je suis un époux jaloux qui veut que mon épouse m'aime et que je l'aime. Je ne veux pas que ce soit partagé, ça, avec des amants. Dieu est un Dieu jaloux comme je suis un père jaloux de mes enfants. Et lorsque je vois mes enfants qui peut-être pourraient faire des choix qui détruiraient leur vie, oh, je veux intervenir. Je veux intervenir, il y a quelque chose qui monte en moi. Je veux les protéger, je veux les garder de cela. Oui, je suis jaloux de leur bonheur. Je veux qu'ils soient heureux. Je veux les préserver. Martin Luther dit, Dieu sait, parce que Dieu connaît toutes ces idoles, ces inventions des hommes et parfois ces puissances diaboliques qui sont derrière toutes sortes de cultes. Dieu sait que le mal se trouve là, que l'esclavage se trouve là. Et donc, ce que Dieu dit à Israël, il dit, « Je t'ai conduit au désert pour m'offrir à toi. Je t'offre d'être mon peuple et que je sois ton Dieu. Mais comprends bien ceci. Pour que je sois ton Dieu, il faut que tu décides que ton allégeance, ton amour va être sans partage. C'est la seule manière que je vais être ton Dieu. » Qui est ton Dieu? qui est ton Dieu? Ou est-ce que tu as plusieurs dieux? Est-ce que tu as choisi un seul Dieu, l'Éternel, le vrai Dieu? Ou est-ce que ton cœur est partagé? Pour que Dieu soit ton Dieu, il faut que dans ton cœur, tu aies fait un choix absolument clair. Où tu décides de prêter serment, de prêter allégeance, de dévouer ton cœur entièrement et seulement à l'Éternel. Qui est ton Dieu? John Frame, un excellent théologien, une belle citation qui nous aide à pousser un petit peu plus loin la réflexion, il dit « Ce commandement interdit d'accorder notre allégeance à qui que ce soit ou quoi que ce soit qui vienne prendre la place de Dieu dans notre vie. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Ce commandement interdit d'accorder notre allégeance à qui que ce soit ou quoi que ce soit qui vienne prendre la place de Dieu dans notre vie. » Et plus tard, à travers les prophètes, à travers les enseignements de Jésus, on découvre que les autres divinités prennent toutes sortes de formes. Jésus parle de l'argent, et il prend un terme araméen, mammon, qui n'était pas un culte particulier, d'accord? C'était juste une manière de désigner la richesse, l'argent. Et il dit, ça, c'est un dieu. Et tu dois choisir. Tu dois choisir entre prêter allégeance à Dieu ou à mammon. Donc Jésus est en train de nous dire que les autres dieux, les autres divinités peuvent prendre toutes sortes de formes. Elles ne sont pas faites que de bois, de pierre ou d'or. Mais c'est tout ce vers quoi je peux porter mon cœur plutôt que vers Dieu. Tout ce qui peut m'amener à partager mon allégeance envers Dieu. Martin Luther va plus loin, même dans son questionnement, il dit « Chacun d'entre nous, on doit se replier sur nous-mêmes, examiner nos cœurs et dire « Vers où vas-tu pour trouver ton secours? Quand ton cœur est troublé, vers qui te tournes-tu pour trouver une consolation? Qu'est-ce ou qui pourrait être enlevé qui t'enlèverait ta paix? » Probablement que cette personne ou cette chose est un Dieu dans ta vie. Voyez-vous, lorsqu'Israël se détourne de l'Éternel pour aller vers d'autres idoles, vers des dieux faits de pierre, de bois, en réalité, ils ont déjà commencé à détourner leur cœur de Dieu et à adorer une idole, un Dieu, le pouvoir, la richesse, toutes sortes de convoitises qui les amènent à symboliser ça à travers un culte physique. Mais en réalité, tout ce qui vient amener un partage dans mon cœur, dans mon allégeance à Dieu, tout ce vers quoi je me tourne plutôt que de me tourner vers Dieu quand je devrais le faire, tout ce sur quoi je vais m'appuyer même, au lieu de m'appuyer sur Dieu. Alors tu t'appuies sur quoi? Ta richesse? Ton travail? Ta sécurité dans ton emploi? Peut-être que c'est un Dieu dans ta vie. Et voyez, ce qui est particulier avec l'idolâtrie, c'est que je peux avoir ou ne pas avoir, dans les deux cas, ça peut être un Dieu. Je suis riche, mon argent peut être mon Dieu. Je suis pauvre, l'argent peut être mon Dieu aussi. Je suis en amour, j'ai trouvé la femme de ma vie. Elle peut devenir mon Dieu. Parce qu'on discute, puis son sourire détermine mon bonheur, ses désirs commandent les miens. Lorsque je sens qu'elle ne me donne pas assez d'amour, je commence à la manipuler parce que je veux avoir. Elle est devenue un Dieu, mais je peux ne pas avoir aussi d'épouse, chercher la femme de ma vie. Elle est déjà un Dieu. Elle est invisible. Alors voyez-vous, dans ce cas-là, les mauvaises choses et les meilleures choses peuvent toutes devenir des idoles dans nos vies. Où mon cœur va être partagé. Mes enfants peuvent devenir une idole dans ma vie. Mon travail, ma santé, ma richesse, l'amitié, l'image que les gens ont de moi, l'image que j'ai de moi-même. Toutes ces choses-là peuvent devenir des idoles et des dieux dans ma vie. Et à ce moment-là, je ne suis pas en train d'honorer le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans un langage contemporain, on pourrait les appeler, comme Mark Driscoll, des dieux fonctionnels. Des dieux fonctionnels. On va passer un temps de louange et ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Et j'aimerais ça vous inviter à examiner vos cœurs. On commence cette série sur les 10 commandements. On va voir ensemble progressivement comment cette loi-là parle à nous qui sommes chrétiens. Mais en même temps, ce matin, alors qu'on va prendre ensemble ce mémorial qui nous rappelle le sacrifice de Jésus, j'aimerais ça vous inviter à réfléchir pendant le prochain chant. Vous posez la question, qui sont mes dieux fonctionnels? Où est-ce que je me tourne pour aller trouver mon réconfort au lieu d'aller le trouver en Dieu? Où est-ce que je me tourne pour aller trouver mon repos quand je suis fatigué d'être stressé, fatigué d'être chargé d'inquiétude? Qu'est-ce que j'ai peur qu'on m'enlève? Et si je le perdais, je perdrais mon bonheur. Ce sont probablement tes dieux fonctionnels. Et ce sont probablement des idoles dans ta vie qui amènent ton cœur à être partagé. On va prendre ensemble le repas du Seigneur et ça nous parle de Jésus-Christ. Et souvent, la question qu'on a lorsqu'on regarde les 10 commandements, on dit, mais OK, c'est quoi la relation avec Christ? C'est quoi la relation avec Christ? Il y a un beau passage. Laissez-moi lire ça avant qu'on chante un chant ensemble. Et peut-être que vous méditerez là-dessus, d'accord? On a vraiment un bel indice de la divinité de Christ dans ce passage-là. Le premier commandement, ce qu'il dit, c'est « Tu vas aimer Dieu seulement. » En d'autres mots, c'est ça qu'il dit. Tu vas voir un seul Dieu, tu vas lui prêter allégeance. Dans Deutéronome 6, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Dans Matthieu 10, 37, voici ce que Jésus dit. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Soyez pas surpris que les Juifs, lorsqu'ils l'entendaient parler, se disaient « Ce gars-là se prend pour Dieu parce qu'il nous demande de l'aimer plus que tout. » Alors voyez-vous, pour nous, chrétiens, le premier commandement, c'est d'aimer Christ plus que tout, d'être prêt à le suivre plus que tout. Et nous savons que la loi de Christ nous a été donnée dans un contexte de grâce, parce qu'il est venu mourir sur la croix pour nous. En chantant, cherchons dans nos cœurs, à examiner nos cœurs et identifier ces idoles, ces dieux fonctionnels qui nous détournent de Christ si facilement, d'accord?